VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 6 mai 2020. Eric Manelakidze à la présentation, voici d'abord les titres. Le Soudan criminalise l'excision, une pratique très répandue dans le pays. De fortes pluies ont fait près de 200 morts en émoi au Kenya. Au Malawi, le principal opposant a déposé sa candidature pour la présidentielle de juillet prochain. Plus de 258 000 personnes emportées par le Covid-19 dans le monde, dont plus de 1900 en Afrique. Le retour vers la Terre d'une capsule spatiale chinoise soldée par un échec. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. Des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies au Kenya ont entraîné en émoi la mort de 194 personnes. Les personnes vivant dans des zones inondables de plusieurs régions où les principaux barrages ont atteint leur capacité maximale ont été évacuées. Ces fortes pluies apportent une seconde vague de criquets dont des essaims immenses se forment au Kenya et d'autres pays d'Afrique de l'Est. Les agents humanitaires craignent que la conjonction de ces criquets et les retombées économiques du coronavirus vont provoquer une grave famine dans la région. RDC, l'ONU a recensé près de 700 violations des droits de l'homme dans le pays en mars, commises par les agents de l'État et des groupes armés. Un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, publié mercredi à Kinshasa, évoque également des cas d'exécution extrajudiciaire pendant la même période. Au moins 41 militaires de l'armée congolaise et 6 policiers ont été condamnés pour des violations des droits de l'homme, mais aucun membre des groupes armés n'a été condamné, précise le rapport. Le Soudan se dirige vers une pénalisation de l'excision, un amendement au code pénal qui rend leurs auteurs passibles de 3 ans d'emprisonnement et d'amende a été approuvé par le gouvernement. Avant même sa promulgation, l'amendement a déjà été salué par les organisations de défense des droits humains qui ont inlassablement plaidé contre l'excision durant des décennies. Le chef du principal parti d'opposition au Malawi, Lazarus Chakwera, a officiellement déposé mercredi devant des milliers de partisans sa candidature à l'élection présidentielle. Il est soutenu par l'ancien vice-président Saulos Chilima, qui a renoncé à se présenter après être arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019. La Cour constitutionnelle a annulé en février 2020 la victoire du président sortant Peter Mutharika pour cause de fraude. Elle a ordonné une nouvelle élection programmée le 2 juillet prochain. Monsieur Mutharika a fait appel de cette décision devant la justice qui doit se prononcer prochainement. L'Afrique s'approche de la barre des 50 000 cas de contamination au nouveau coronavirus. Plus de 1950 personnes sont décédées de la maladie. Le point avec Abdourahmane Dia.
La Guinée a enregistré 101 nouveaux cas mardi, portant le total à 1811, dont 10 morts. Le Sénégal voisin a 104 nouveaux cas pour un total de 1433 et 11 décès. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a ordonné la libération massive de prisonniers qui ne présentent pas de risque ou ceux qui sont condamnés à des peines mineures après la contamination de plus de 100 détenus d'une prison militaire à Kinshasa. Le Nigeria a commencé le rapatriement de ses ressortissants qui étaient bloqués à l'étranger. Un premier groupe de 265 Nigérians doit rentrer vendredi de Dubaï, suivi d'un autre groupe de 300 personnes venant de Londres. Un autre vol en provenance de New York est attendu dimanche. Toutes les personnes rapatriées seront confinées pendant 14 jours. De son côté, l'Union africaine dit être en discussion avec Madagascar en vue d'obtenir des données techniques sur un remède à base de plantes pour évaluer son efficacité.
La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 258 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Maintenant, plusieurs pays s'orientent vers un déconfinement progressif. Et qui abat tout.
Plus de 3 675 000 infections au coronavirus ont été diagnostiquées dans 195 pays et territoires et plus de 1 138 000 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec près de 71 000 décès et plus d'1 200 000 cas. Notre pays est maintenant à la phase suivante de la bataille, une réouverture très sûre et progressive, a déclaré le président Donald Trump lors de son dernier déplacement au Texas. Le Royaume-Uni est devenu le pays le plus touché en Europe, devant l'Italie en nombre de cas et de morts. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été pris à partie par le chef de l'opposition sur le lourd bilan dans le pays. Le président français Emmanuel Macron assure que le 11 mai, beaucoup de choses pourront reprendre, mais en s'adaptant entre bon sens et innovation. Les commerces se préparent à rouvrir en France, mais les cinémas, festivals et autres salles de concert resteront fermés.
Le pape François a pris mercredi la défense des ouvriers agricoles en Italie, dont de nombreux immigrés exploités. Il a appelé à profiter de la crise du coronavirus pour assurer leur dignité. Chaque été, des milliers d'ouvriers agricoles africains, bulgares ou roumains viennent dans la péninsule pour récolter fruits et légumes. Ces ouvriers travaillent plus de 8 ou 10 heures par jour, voire 14 heures. Ils sont souvent payés un salaire de misère et vivent parfois dans des conditions d'hygiène déplorables.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême des États-Unis a semblé divisée mercredi lors de l'examen d'une réforme de l'administration Trump qui entrave l'accès à la contraception au nom de la défense des valeurs religieuses. Cette affaire portait sur l'une des mesures phares de la loi sur l'assurance maladie de l'ex-président démocrate Barack Obama, l'Obamacare, qui oblige les employeurs à couvrir dans leur mutuelle les moyens de contraception de leurs salariés. Vous avez jeté aux orties ce que le Congrès avait jugé essentiel, que les femmes aient accès à ces services sans encombre, sans frais à leur charge, a lancé depuis son lit d'hôpital la doyenne de la Cour, Ruth Bader Ginsburg, à l'avocat du gouvernement de Donald Trump. À cause de la pandémie de nouveau coronavirus, l'audience a eu lieu par téléphone. En temps normal, la Cour devrait rendre sa décision avant la fin juin, mais la pandémie pourrait bouleverser son calendrier. Les députés israéliens ont commencé à voter mercredi sur des amendements à l'accord de gouvernement d'union conclu par le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou et son ex-rival Benny Gantz, qui doit encore être appuyé par la Cour suprême pour être validé. Lors de 2 jours d'audience, diffusée en direct sur les chaînes israéliennes dimanche et lundi, les juges au visage camouflé par des masques sanitaires ont suggéré une série de changements à l'accord. Interpol a annoncé aujourd'hui que 101 personnes ont été arrêtées et 19 000 objets volés ont été retrouvés lors d'une vaste opération contre le trafic d'œuvres d'art et d'antiquités dans 103 pays. Claire Morin-Gibourg pour les détails.
Après 2 opérations simultanées menées à l'automne dernier par Interpol et l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, ces pièces de collection ont été retrouvées. Parmi ces saisies figurent des monnaies anciennes, des pièces archéologiques, des objets de céramique, des armes anciennes, issues de pillages dans des pays frappés par la guerre ou encore volées dans des musées et sites archéologiques. Quelques objets précolombiens extrêmement rares, pillés sur des sites archéologiques en Colombie, ont notamment été retrouvés à Madrid, a précisé Interpol dans un communiqué. Et 971 objets ont été saisis par la douane afghane à l'aéroport de Kaboul. Des outils utilisés par les trafiquants, comme les détecteurs de métaux, ont aussi été découverts. Ces saisies ont abouti à l'ouverture de 300 enquêtes. Sur l'intégralité des saisies, 28% concernent des objets mis en vente en ligne.
Le retour vers la Terre d'une capsule spatiale chinoise s'est achevé mercredi sur un échec après une anomalie lors de l'opération. C'est du moins ce que disent les autorités chinoises. Les précisions de John Lindon.
L'engin expérimental a été envoyé dans l'espace mardi en compagnie d'un nouveau vaisseau spatial qui doit revenir vendredi sur Terre. L'agence chinoise chargée des vols habités évoque une anomalie sur le retour de la capsule et indique que les experts sont en train d'analyser les données sans plus de précision. Comme son nom l'indique, cette capsule cargo n'est pas conçue pour transporter des astronautes, mais uniquement du matériel. Sa désintégration constitue une déception pour le programme spatial chinois, mais pas un échec majeur. La capsule était munie d'un bouclier thermique gonflable. Ce type de structure, également testée par les agences américaines et européennes, ambitionne de remplacer les boucliers thermiques classiques. Un échec du retour vendredi du faisceau spatial sera plus grave, car les ingénieurs chinois sont censés maîtriser depuis de nombreuses années les retours sur Terre. Le cargo et le faisceau ont été lancés mardi comme ballons d'essai pour acheminer les éléments de la future station spatiale chinoise baptisée Palais Céleste, dont l'assemblage doit débuter cette année et s'achever en 2022.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
La propagation du Covid-19 dans la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale fait encore peser un nouveau risque de dévaluation de la monnaie commune. C'est du moins ce qui ressort des récentes réunions de la Banque des États de l'Afrique centrale. Avec la rapide progression du coronavirus, les pays de la CEMAC sont exposés à une grande récession qui pourrait aboutir à une dévaluation de la monnaie commune, le franc CFA. C'est l'une des conclusions du rapport sur la politique monétaire livrée le 27 avril par la BEAC. Le Soudan envisage de lancer une bourse des transactions sur l'or, c'est ce qu'a annoncé son premier ministre Abdallah Hamdok, rapporté par Reuters. Avec une production estimée à 93 tonnes en 2018, le Soudan est considéré comme un des producteurs majeurs d'or en Afrique, après le Ghana et l'Afrique du Sud. Casablanca, Finance City et Rwanda Finance Limited ont signé un protocole d'accord visant à promouvoir les opportunités d'investissement entre le Rwanda, le Maroc et l'Afrique. L'accord fournira une plateforme pour la promotion des meilleures pratiques. De nombreux partenariats stratégiques ont été conclus entre le Rwanda et le Maroc, notamment l'accord de non-imposition et de prévention de l'évasion fiscale.
Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Des joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid ont commencé à subir des tests de dépistage du coronavirus en vue d'une reprise de la Liga en juin. Lionel Messi et Antoine Griezmann ont été vus arriver en voiture au centre d'entraînement du Barça. À Madrid, l'effectif du club doit aussi se soumettre à des tests au centre d'entraînement du Real, en banlieue de la capitale espagnole. L'Atlético Madrid a aussi prévu de mener des tests de dépistage aujourd'hui. Selon le protocole de retour à l'entraînement, les joueurs commenceront par s'entraîner seuls, avec pas plus de 6 d'entre eux sur le terrain au début du processus. Il est aussi prévu qu'ils arrivent dans leur centre d'entraînement déjà en tenue et qu'ils doivent, lorsqu'ils ne s'entraînent pas, porter un masque et des gants. Après chaque séance, ils se verront remettre un sac contenant une tenue d'entraînement pour le lendemain. En Turquie, le championnat reprendra à huis clos en juin également. À ce stade, nous avons pris la décision de redémarrer les ligues professionnelles aux dates des 12, 13 et 14 juin, a déclaré le président de la Fédération turque de football, Nihat Özdemir, ajoutant que sa structure compte boucler le championnat le 26 juillet. Il dit espérer que la Turquie accueillerait bien la finale de la Ligue des champions en août. Et puis la crise économique causée par le coronavirus va entraîner une baisse de la valeur des joueurs de football. C'est ce qui ressort d'une étude du cabinet KPMG. Le cabinet a chiffré la perte de valeur de plus de 4000 joueurs évoluant dans les 10 principaux championnats européens, Première Ligue et Deuxième Division anglaise, Espagne, Allemagne, Italie, France, Pays-Bas, Belgique, Turquie et Portugal. Avec 21% de baisse, Kylian Mbappé et Neymar, joueurs les plus chers d'Europe, sont les plus concernés. L'attaquant français est valorisé entre 177 et 180 millions d'euros contre 225 millions d'euros dans l'estimation de KPMG en février, alors que Neymar ne vaudrait plus 175 millions d'euros, mais entre 137 et 149 millions d'euros. L'Argentin Lionel Messi passe de 134 millions d'euros à 127 millions. Le Bayern Munich et le Roi Sané sont d'accord sur le principe d'un transfert, mais la somme reste à négocier entre les deux clubs. Selon Sport Bild, le Bayern Munich aurait offert 40 millions d'euros pour l'attaquant de Manchester City, à qui il proposerait un contrat de 5 ans. Manchester City a besoin de rentrée d'argent pour se conformer aux exigences du fair play financier de l'UEFA et pourrait céder l'international allemand de 24 ans, qui arrivera en fin de contrat en juin 2021. et pourrait alors partir sans aucune indemnité. En outre, Sané s'est blessé au genou en août dernier et n'a plus joué pour son club depuis maintenant 9 mois, ce qui laisse planer un doute sur sa capacité à revenir au plus haut niveau.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Nigeria, 2 jours après le début du déconfinement progressif, la Commission nationale sur le Covid-19 dénonce le non-respect à l'échelle nationale des règles et craint une augmentation rapide de nouveaux cas dans le pays. Les autorités menacent d'imposer un nouveau confinement. À Abuja, le reportage est signé Gilbert Tamba.
Le président nigérien a annoncé que seul le personnel essentiel des institutions publiques et privées irait au travail. Mais plusieurs centaines d'habitants de la capitale fédérale, Abuja et des environs, en profitent pour sortir afin de résoudre quelques problèmes. Nombreux sont ceux qui continuent de bafouer les règles de distanciation sociale et le port du masque pour freiner la propagation du coronavirus. Beaucoup de Nigériens se rendent dans les banques, les magasins et les marchés pour retirer de l'argent ou effectuer des achats sans le moindre respect des restrictions établies par les autorités en cette période de confinement progressif. Quelques réactions. C'est bien d'assouplir le confinement, mais les populations doivent céder elles-mêmes. Mais je pense que c'est une nouvelle culture pour nous et nous allons finir par nous adapter avec le temps. Vous savez, ici c'est l'Afrique et en plus le Nigeria avec une grande population. Même si c'est possible parfois, dans certains cas, comme dans les marchés, les gens tentent de respecter. Mais c'est pas facile pour eux. À ce jour, le pays a enregistré 2950 cas et près d'une centaine de morts liées au Covid-19. Plus de 100 agents de santé en première ligne de la lutte contre le coronavirus ont été testés positifs. Face à l'augmentation rapide des cas dans les dernières 48 heures, le gouvernement appelle ses citoyens à la prudence. Le directeur général du Centre de contrôle des maladies, Chike Uekezu. Les premières informations reçues à travers le pays ne sont pas bonnes. Il ne s'agit pas d'imposer des restrictions, mais l'idée derrière tout ça, comment gérer le risque de s'exposer à la transmission du virus. Nous aurons de nouvelles infections à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de doute à cela. Les cas de contamination au Covid-19 se multiplient alors que le gouvernement commence aujourd'hui le rapatriement de quelques 4000 Nigériens bloqués à l'étranger. Certains étaient partis pour des voyages d'affaires peu avant le déclenchement de la pandémie et se sont vus empêchés de revenir suite à l'imposition des mesures de confinement dans ces pays et plusieurs aéroports ont été fermés. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Godfrey Onyema. Le plus grand défi pour nous, c'est où allons-nous les mettre en quarantaine dans de meilleures conditions. Donc nous nous sommes battus pour trouver des lits ici à Abuja et à Lagos. Par ailleurs, le Royaume-Uni, les États-Unis, Israël et les pays membres de l'Union européenne ont aussi commencé à évacuer leurs citoyens bloqués au Nigeria grâce à des vols d'urgence autorisés par le gouvernement fédéral. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le secteur de l'enseignement est obligé de s'adapter face au Covid-19. Après la fermeture des écoles pour éviter les rassemblements, plusieurs gouvernements ont lancé des programmes d'enseignement à distance, soit à la télévision, soit sur Internet. Mais ces programmes d'enseignement sont-ils adaptés en Afrique où l'accès pour tous aux nouvelles technologies pose problème? Comment faire pour éviter que l'année scolaire ne soit perdue? Faut-il développer l'enseignement à distance en Afrique? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi 7 mai 2020 à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Au Tchad, le personnel soignant à l'avant-garde dans la lutte contre le Covid-19 est exposé à des risques de contamination. Depuis le mois de mars, une trentaine d'agents de santé ont été déclarés positifs sur les 117 cas confirmés par les autorités médicales. Malgré tout, les techniciens des laboratoires sont déterminés à aller jusqu'au bout de ce combat contre un ennemi invisible. André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena, donne les détails.
Nous sommes comme des soldats. Il faut chercher à dominer l'ennemi. Avoir peur ou pas, nous avons choisi ce métier. On est obligé d'être là. Si on tombe, c'est un soldat qui est tombé.
Docteur Bessimba Enatla, chef de service des laboratoires de l'hôpital général de référence nationale, le service où le plus grand nombre du personnel est contaminé depuis le début de la lutte contre la pandémie.
Le technicien peut se contaminer au moment de prélèvement parce que le virus circule dans les gouttelettes rejetées dans l'air. Et donc, les cache-nez utilisés peuvent protéger, mais pas à 100%. Et ces cache-nez sont utilisés à une durée de 3 heures du temps. Et c'est ce qui a fait aussi qu'au départ, ces négligences peut-être peuvent aboutir à la contamination de quelques personnels. Mais dès lors, nous avons pris conscience. Et avec le peu de moyens que l'État nous a secourus avec, donc en ce moment, au moins les cache-nez, les surblouses, on a donné déjà à ceux qui font le prélèvement.
Stressés et stigmatisés, les techniciens de laboratoire sont aussi touchés à grande échelle, mais affirment à VOA Afrique qu'ils ont le moral haut pour contribuer à éradiquer cette pandémie.
Au début, il y a une stigmatisation. Quand tu vas vers les autres services, on te dit non, là, vous, là, chez vous, là, c'est dangereux, hein, allez-y loin de nous. Mais maintenant, c'est un peu stabilisé.
À chaque fois que nous rentrons, les autres nous posent des questions, même les collègues techniciens qui sont ailleurs, quand ils ont écouté que c'est le laboratoire d'hygiène qui est contaminé, ils nous appellent pour demander des informations. Mais tout ce que nous devons, c'est de respecter les mesures barrières. Pour la maladie est là, il faut qu'on prenne au sérieux. Au départ, il y avait un peu le stress, mais maintenant, je crois que le moral est haut.
Madame Mogina Gardono Khadija Gamogan, chef de service adjointe des laboratoires, parle des mesures prises pour protéger davantage le personnel soignant.
Le port de masque est obligatoire. Le port des équipements de protection individuelle comme les gants, le port des lunettes. Et lors des prélèvements, on accentue un peu plus en portant des combinaisons pour éviter la contamination. Et l'utilisation des gels et l'utilisation du javel. Et notre bâtiment est pulvérisé régulièrement. On a renforcé les mesures de protection, donc ce qui fait que les agents travaillent quand même d'une manière un peu sécurisée.
La gestion du COVID-19 a fait l'objet d'une interpellation du ministre de la Santé publique par les députés à l'Assemblée nationale, professeur Mahamoud Youssouf Kayal.
Bien que le personnel soit protégé grâce à l'utilisation des équipements de protection individuelle, le respect des mesures de protection et des contrôles des infections s'imposent et les règles de biosécurité doivent être renforcées sur les laborantins atteints. Il y a presque une vingtaine qui sont guéris. Et nous avons réaménagé le local de laboratoire mobile par des travaux de cloisonnement et de renforcement de la chaîne de froid pour améliorer les conditions de travail.
Jusqu'au 5 mai, le Tchad a enregistré 117 cas d'infection au COVID-19, 39 guéris et 10 morts, dont un député à l'Assemblée nationale. André Kodouma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
La recherche d'un médicament curatif contre le COVID-19 se poursuit et l'Afrique n'est pas en reste. Certains chercheurs africains proposent des solutions à base de plantes. C'est le cas du Covid organique qui est même déjà commercialisé à Madagascar. L'OMS dit que la solution peut effectivement venir de la pharmacopée traditionnelle, mais les produits proposés doivent être soumis à des protocoles scientifiques rigoureux. Le point avec Mohamedou Oumfa.
La solution thérapeutique contre le Covid-19 viendra-t-elle de l'Afrique? Certains naturopathes africains y croient. En tout cas, Madagascar a déjà sa solution. Il s'agit du Covid Organix, une solution buvable à base d'artémisia. L'artémisia est une plante déjà utilisée en Afrique contre le traitement du paludisme. Son utilisation n'est donc pas une nouveauté selon Eric Bodossou, président de Prometra, une ONG de promotion de la médecine traditionnelle.
Ça fait plus de 3 décennies que nous avons cultivé l'artémisinia. Nous l'avons distribué à nos différents guérisseurs et on leur a expliqué que c'était non seulement très bon pour le palud, pour la fièvre typhoïde, etc., etc. Mais malheureusement, nous avons été combattus. Aujourd'hui, si un autre président ou un autre pays trouve que c'est efficace, c'est tant mieux.
L'Organisation mondiale de la santé ne rejette pas l'artémisia, le Covid Organix ou les solutions issues de la pharmacopée traditionnelle africaine. Cependant, et selon le responsable des services d'urgence du Bureau Afrique de l'OMS, toutes ces solutions doivent être soumises à des études scientifiques rigoureuses. Docteur Michel Yao.
On encourage des innovations, notamment venant de ces médicaments traditionnels, à condition que cela suive un protocole scientifique. On a plus ou moins l'historique de médicaments qui marchent dans la communauté. Mais que cela soit diffusé au grand public, il est important qu'on ait un minimum de démarches scientifiques pour montrer que le médicament est efficace et n'est pas nocif pour l'homme.
L'OMS assure d'ailleurs dans un communiqué publié le 4 mai 2020 avoir collaboré avec les pays pour assurer un développement sûr et efficace de la médecine traditionnelle en Afrique en fournissant les ressources financières et un appui technique, ce qui a permis d'homologuer pas moins de 43 produits qui traitent des maladies comme le paludisme, le diabète, la trépanocytose et l'hypertension. Eric Bodossou de Prometra salue ces efforts, mais engage les responsables politiques à s'impliquer davantage pour promouvoir les solutions africaines.
Et l'or vert, croyez-moi, c'est l'Afrique qui détient le plus gros gisement. Si nous, les politiciens, les leaders politiques ne comprennent pas ça encore, ce serait un gros dommage. Pour que ce soit encore eux, les Nord, qui viennent encore pirater notre autre verre pour nous le revendre encore. Ce serait un dommage.
En tout cas, Prometra et l'OMS se disent disposés à collaborer pour trouver un médicament curatif et homologué contre le COVID-19.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
En Afrique du Sud, des ingénieurs et des médecins conçoivent des respirateurs peu coûteux pour pallier le manque dans les hôpitaux. Les cas confirmés de COVID-19 en Afrique du Sud sont passés à plus de 7200 avec au moins 138 décès. Le reportage de Franco Puglisi à Johannesburg, relaté par Nathalie Barge.
Les respirateurs sont des machines complexes et coûteuses nécessaires pour traiter le COVID-19. Ils sont rares, voire inexistants, dans de nombreux hôpitaux en Afrique. L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, a besoin de milliers de respirateurs supplémentaires. Pour remédier à cette pénurie, des médecins et des ingénieurs sud-africains ont décidé de s'associer afin de créer des appareils d'urgence peu coûteux, portables et faciles à utiliser. L'ingénieur en électronique Jerry Gill a participé à l'élaboration de ce dispositif.
Ce que nous voulions à l'origine, c'est quelque chose d'abordable, qui est indestructible et évidemment assez bon marché. Et c'est ainsi que nous avons commencé à concevoir la O2Box.
L'O2Box coûte environ 220 $ comparativement à des dizaines de milliers de dollars pour un respirateur standard et peut fonctionner à l'énergie solaire en binaire ou même à partir d'une batterie de voiture. Les inventeurs notent que le produit n'est pas destiné à remplacer un respirateur standard, mais à agir comme dispositif d'urgence de dernier recours. Son accessibilité est sa principale qualité, selon le docteur Jeannot De Beer du centre médical Robert Broom.
Utiliser ces dispositifs peu coûteux permettrait à une personne qui ne serait pas en mesure d'obtenir un respiratoire car n'entrant pas dans les critères basés sur l'âge, l'évolution de la maladie ou le diagnostic, d'avoir une chance de combattre la maladie.
Une équipe de l'université de Johannesburg travaille également sur un respirateur selon le principe open source dont la conception est ouverte à tous les étudiants et professeurs, précise le professeur d'ingénierie Déon Sabata.
En s'inspirant de cette philosophie, le but de l'université est de stimuler un groupe de réflexion ou un centre d'innovation d'idées afin de développer ces technologies et de les envoyer dans le monde où les gens pourraient les utiliser, ce que nous espérons.
Alors qu'ils n'en sont qu'au stade du prototype, Jeannot De Beer et Jerry Gill projettent de produire jusqu'à 3000 respirateurs d'urgence par semaine d'ici la fin du mois et l'université de Johannesburg est seulement en phase préparatoire. Les experts médicaux affirment que le pic d'infection au Covid-19 en Afrique du Sud pourrait survenir dès le mois de juillet.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Lionel Vonanila Kahima, Georges Léonard Sagnot, Michel Joseph et Josèle Morissin. À la présentation, Eric Manirakis. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellente soirée à tous. Au revoir.